Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 12h à Makanza, dans l'Équateur, une heure de plus à Parnganza, en Ituri, le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. La lutte contre l'impunité ne doit pas seulement se limiter au niveau de la CPI, il faut que nos cours et tribunaux s'y engagent aussi. Réaction de l'Association africaine de défense des droits de l'homme concernant la décision de la CPI de réactiver les enquêtes sur les crimes commis dans le Nord Kivu, vous entendrez le président de la ZADO. Adoption hier à l'Assemblée nationale du calendrier de la session de septembre, soit 30 jours après l'ouverture solennelle. Pourquoi ce retard? Le rapporteur Jacques Joly rassure, il n'y aura pas blocage. Et puis, Journée mondiale de la santé mentale, c'était le 10 octobre. Thème de cette année, santé mentale au travail. Invité de ce journal, le psychologue Semou Vincent alerte sur les comportements toxiques qui peuvent nuire au bien-être mental dans une entreprise. Madame, Messieurs, bonjour. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, salue la décision du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, de réactiver les enquêtes sur les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu. C'est confiant ce mardi à Radio Kapi. Jean-Claude Katende, président de l'AZADO, indique que cette annonce est une interpellation aux uns et aux autres à changer leur conduite. Toutefois, il invite le gouvernement congolais à s'impliquer aussi dans la lutte contre l'impunité. On écoute maître Jean-Claude Katende. Attendez au micro de Grâce Amzati.
Vous savez que les M23, comme d'autres groupes rebelles, sans oublier le Rwanda, sont à la base de beaucoup de crimes qui sont encore jusque-là impunis. L'intervention de la CPI ne porte pas sur l'ensemble des crimes. On va identifier quelques crimes graves qui vont être sanctionnés, mais il est important que la République démocratique du Congo puisse engager aussi des actions de lutte contre l'impunité sur base du rapport mapping, principalement pour les acteurs qui sont incriminés dans ce rapport et qui sont aujourd'hui dans la ville de Kinshasa ou qui sont au pays, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans les institutions. Il faudra que la lutte contre l'impunité ne soit pas seulement une lutte qui se focalise sur la CPI, mais il faut que nos propres cours et tribunaux puissent aussi s'engager dans cette lutte pour mettre la main sur tous les acteurs politiques qui ont été impliqués dans les crimes graves qui ont eu lieu depuis plusieurs années.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mardi à Zongo, au Congo central, d'une retraite d'évaluation et actualisation du projet de la politique nationale de justice transitionnelle en RDC, organisée par le ministère des droits humains. Ces assises de 4 jours réunissent des experts des différentes parties prenantes, notamment le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. On écoute à ce sujet Jules Mongungu, expert, conseiller et représentant de la ministre des droits humains à ces assises. Propos recueillis par Grâce Amzati.
Tenant compte de l'évolution du temps, tenant compte de l'évolution de la politique, nous nous retrouvons actuellement ici à Zongo pour essayer d'actualiser ce projet, contextualiser ce projet qui avait été réalisé en son temps, afin que le processus de sa mise en œuvre puisse se poursuivre de manière aisée. C'est un processus qui est plus ou moins long, mais c'est un processus qui doit amener tout le monde à y participer. La justice transitionnelle, c'est un mécanisme qui est mis en œuvre pour permettre à tout le monde qui se retrouve en fait dans le contexte de guerre. Ça fait plusieurs décennies, nous sommes agressés par des armées étrangères. Et dans ce contexte-là, il faut que la population puisse bénéficier d'une paix durable après la guerre. Le deuxième élément, il faut que la justice soit rendue. Il faut qu'il y ait des garanties que tous les faits qui se sont passés ne vont plus se répéter. Et enfin, il faut que les victimes soient réparées.
Entre-temps, au Kasaï central, la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental condamne 3 miliciens de Kamuina-Sapu pour participation à un mouvement insurrectionnel. Ils écopent respectivement de 20, 15 et 10 ans de servitude pénale principale pour les actes commis lors de ces violences meurtrières. Ce verdict a été rendu hier à la suite des audiences foraines organisées à Kongolo-Monji, l'une des localités de Kazumba qui avait été touchée par ces événements. Le Fonds national de réparation des victimes victimes de violences sexuelles liées au conflit Fonarev, qui a soutenu ses audiences foraines, salue cette décision de justice. On écoute le coordonnateur de Fonarev au Kasaï central, Miran Moulumba, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Cette instance du jour, c'est un message très très fort que l'on lance bien entendu à tous les autres compatriotes, que c'est pas aujourd'hui que vous pouvez commettre de faits et que vous devez répondre aujourd'hui non plus, mais il est vrai que chaque chose a son temps. La justice donne l'espoir, la justice console à ce jour les victimes. Je crois que c'est de cette manière que nous devons ensemble bâtir une nation véritablement humaniste et juste. D'où le cap serait ouvert pour le processus d'identification des victimes qui doivent logiquement être bénéficiaires de mesures réparatrices collectives individuelles. Mais hélas, je lance aussi un appel à toutes les autres victimes que aujourd'hui pas mal de dossiers qui sont pendants devant les instances judiciaires. Nous leur assurons que le Fonds national de réparation est résolument engagé pour voir comment accompagner la justice militaire pour que ce que nous avons connu dans cette partie de la République en termes d'atrocités durant les événements du phénomène Kamouna-Sapou, que cela ne puisse pas encore revenir.
Signalons qu'entre 2016 et 2017, l'espace Grand Kasaï avait été touché par les violences liées au phénomène Kamouna-Sapou, événement qui avait causé des morts, des destructions méchantes et d'autres faits malheureux. Direction le Nord Kivu, une messe œcuménique a eu lieu ce mardi au stade de Ngadi de Beni pour commémorer le 10e anniversaire du début des massacres survenus dans la ville. Une foule composée des habitants de la ville de Beni et du territoire de Beni a répondu à l'appel de la société civile. Des témoignages poignants des survivants ont été partagés. Tous estiment que les victimes ont droit à la justice et à la réparation. Marc Marofimbo, reportage.
Tout est parti bien avant les opérations Keba 1 qui étaient dirigées par le général Mbuyi Moussa Mojène, où on était venu traquer les Adefda, les Chuchubo et Abialossé.
C'est le témoignage des survivants du territoire de Beni qui retrace l'historique des massacres en ville et territoire de Beni devant une foule composée de membres de différentes confessions religieuses et d'autorités militaires. C'était du jamais vu, a déclaré Ira Dubatso, un survivant du massacre de Ngadi le 15 octobre 2014.
Nous, on n'avait jamais vu la tête d'une personne déchirée. On n'avait jamais vu une personne être éventrée. On n'avait jamais vu les intestins d'une personne à l'extérieur. On voyait dans des cinémas, mais ce jour-là, nous avons vécu ça à live. Et jusqu'à présent, cette histoire a créé des blessures dans le cœur de la population.
Beaucoup attendent justice et réparation. Benjamin Asimoni, le coordonnateur des jeunes patriotes consolidateurs de la paix de Beni, s'est exprimé sur le sujet.
Toutes les personnes qui vivent en ville de Beni sont des victimes, soit directes, soit indirectes, de ces massacres. On doit commémorer ces personnes que nous avons perdues en exigeant à ce que les dommages soient réparer à travers tous les mécanismes de justice transitionnelle.
Pendant ce temps, la population d'Ngadi souhaite voir un mémorial du massacre être érigé à l'entrée du stade d'Ngadi, où le premier massacre a eu lieu et non ailleurs, comme le veulent les autorités. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Toujours dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire du début des massacres dans la ville de Beni, les activités socio-économiques sont totalement paralysées ce mardi au centre commercial de Butembo. C'est à l'appel de la synergie des groupes de pression et des mouvements citoyens à observer une journée de deuil. Boutiques, magasins, banques et autres établissements commerciaux restent fermés. La situation est similaire dans le secteur éducatif où la plupart des établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes. Pendant ce temps, des manifestations se déroulent depuis la matinée dans certaines rues de la ville. Les manifestants, majoritairement des jeunes et membres des groupes de pression, expriment leur soutien aux militaires engagés au front et s'opposent au cessez-le-feu entre les FARDC et les M23. Les manifestants dénoncent par ailleurs toute coopération régionale entre la RDC et les pays agresseurs et réclament la levée de l'état de siège. Aucun incident majeur n'est signalé jusqu'à présent. Pendant ce temps, la situation sécuritaire demeure tendue et volatile ce mardi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'est entre autres dans l'agglomération de Sake, chefferie des Baoundé, et localité de Mueso, chefferie des Bachali. Hier lundi, ces zones ont été le théâtre d'affrontements violents ayant opposé les rebelles du M23 aux combattants des groupes VDP Wazalendo. Récit des faits avec Bernardin Nyangui.
Dans la cité de Sake, autour des 5 heures locales ce mardi, quelques tirs ont encore été entendus pendant quelques minutes vers l'ouest de la cité. Selon les sources locales, sur le plan général cependant, c'est un calme précaire qui règne au lendemain d'intenses affrontements entre les rebelles du M23 RDF et les combattants VDP Wazalendo. C'était entre 17h et 20h locales. Pour ces sources, les combattants VDP auraient attaqué les rebelles M23 notamment sur la colline Vunano près de Kiroche au sud de Sake et sur la colline Rotoboko sur l'axe Mushaki vers l'ouest. Quelques obus largués par le M23 sont tombés dans la cité de Sake sans faire de dégâts, la cité étant faiblement peuplée. Par ailleurs, le village de Kashuga, localité de Mueso, se réveille aussi dans la calmie ce mardi. Ceci après des affrontements violents dans la matinée hier lundi entre le M23 et le VDP Ouazalendo. Selon les sources locales, les VDP qui ont attaqué la position rebelle sur la colline Ibuga au centre de Kashuga ont été repoussés. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, adoption hier lundi par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale du calendrier de la session de septembre. Une adoption qui intervient 30 jours après l'ouverture solennelle de la session, alors que la loi relative aux finances publiques n'accorde que 40 jours pour examiner le budget. Qu'est-ce qui explique ce retard et comment la Chambre basse du Parlement compte s'y prendre pour examiner dans les 10 jours restants la loi portant reddition des comptes 2023, le collectif budgétaire 2024 ainsi que le budget 2025 sans bâcler les travaux ni pénaliser le Sénat. Le rapporteur Jacques Joly rassure qu'il n'y a pas blocage et que l'Assemblée nationale débute dès demain mercredi avec l'examen de ces textes afin d'être dans le temps. Michel Kifindangoy.
Alors que plusieurs députés pointent des doigts à l'UDPS d'être à la base du blocage à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a pris trop de temps pour désigner les animateurs des commissions permanentes de son quota, les rapporteurs de l'Assemblée nationale rassurent à l'issue de la première conférence des présidents qu'il n'y a pas de blocage. Jacques Joly.
On peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption du calendrier provisoire.
Pour rattraper le retard, l'Assemblée nationale débute dès demain mercredi l'examen de projet de loi portant reddition des comptes 2023, le collectif budgétaire 2024, affirme le rapporteur Jacques Joly.
Pour examiner la loi de finances, l'Assemblée nationale doit d'abord mettre en place ses structures de gouvernance. Terminons à peine la mise en place des commissions permanentes et que demain, nous allons nous atteler à l'examen de la loi portant reddition de comptes et après-demain, rectificatif de budget.
Quant au projet de loi des finances exercice 2025, la conférence des présidents programme son examen au cours de la plénière prévue le 27 et le 28 octobre prochain.
Et puis, la quasi-totalité des entreprises publiques présente à ce jour un visage des parents pauvres. Constat du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, il a fait savoir lors du briefing spécial presse co-animé lundi avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sous le thème « Comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise ?» Pour Jean-Lucien Boussa, la majorité de ces entreprises donnent des résultats négatifs. Cette contre-performance, d'après lui, nécessite des réformes urgentes pour faire d'elles le pilier de l'économie nationale. On écoute le ministre Jean-Lucien Boussa dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Les réformes sont indispensables dans ces secteurs clés de l'économie. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. C'est l'économie de la nation qui est en jeu. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui ont besoin de trouver un contexte économique valorisé où chacun trouve des réponses à son problème. Ça, c'est un. Et pour ça, il faut de l'audace. Il faut simplement de l'audace. Les entreprises publiques appartiennent au peuple congolais. Et donc, moi, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Le chef de l'État n'a pas placé sa confiance en moi pour aller m'amuser avec ses gros ministères. Il m'a fait confiance, Madame la Première ministre aussi, pour agir. Et agir dans le sens de l'intérêt général. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous allons réformer pour que nous replacions les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie comme catalyseur de la diversification de l'économie et comme catalyseur de la croissance de l'économie.
Le Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances précieuses et semi-précieuses, CEC, salue l'initiative du gouverneur du Maniema qui entrevoit de ramener les centres de négoce des minerais du Maniema à Kindu. Le gouverneur l'a annoncé lors de l'ouverture hier de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Écoutez à ce sujet, Freddy Mwamba, directeur général de CEC, au micro de Florence Kizalunga.
Mes impressions sont très bonnes. Je pense que c'est une expérience que beaucoup de provinces doivent adopter parce que c'est un moyen de pouvoir communiquer sur les opportunités que la province a. Et surtout que la province de Maniema, c'est une province très riche en minerais. Et nous, en notre qualité d'autorité de certification, nous sommes venus justement pour rassurer la province de notre accompagnement. Et surtout que la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République est matérialisée aujourd'hui par le ministre ayant le mine dans ses attributions. Et nous, en notre qualité d'autorité de certification, nous sommes là pour informer à la province que les équipements modernes, dont je vais parler des laboratoires, vont être dotés à notre direction provinciale pour justement arriver à doser les minéraux qui sont dans la province pour connaître la teneur, les caractéristiques physico-chimiques et aussi connaître la vraie valeur de minéraux pour que les différentes taxes soient prélevées. Le centre de négoce est un élément important. Pourquoi ? Parce que dans le centre de négoce, vous aurez les acheteurs, vous aurez les vendeurs et vous aurez les services intervenants qui vont justement profiter pour mettre en place les prescrits du manuel de traçabilité.
Parlons sport à présent. Les Léopards de la RDC jouent dans moins de 2 heures, soit à 14h, heure de Kinshasa, face aux Taifa Stars de la Tanzanie, en match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Maroc 2025. C'est au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Un match qui a beaucoup d'enjeux pour la RDC, synonyme d'une qualification en cas de victoire. Plus de détails avec Kanish Mukongo.
Avec un parcours sans faute depuis le début de ces éliminatoires, les Léopards de la République démocratique du Congo ont besoin d'une victoire sur leur homologue tanzanien pour être sûr d'obtenir les tickets de la qualification de la phase finale de cette Cannes Maroc 2025 avant les 2 dernières journées. En cas de match nul, la RDC sera toujours qualifiée mais pourra occuper la première ou la deuxième place au classement. En cas d'une défaite, les Fauves congolais devraient attendre le match de la 5e et 6e journée, respectivement face à la Guinée le 15 novembre prochain en Côte d'Ivoire et devant l'Éthiopie le 19 du même mois à Kinshasa. Premier du groupe H avec 9 points sur 9, la RDC croise son poursuivant direct de la Tanzanie qui est à 5 longueurs, soit 4 points. La dernière confrontation entre les deux sélections s'est soldée à l'avantage des Congolais sur la note de 1-0 le jeudi dernier au stade des Martyrs de Kinshasa, alors que, en 3e position, nous avons la Guinée qui a 3 points devant la lanterne rouge, l'Éthiopie, avec 1 point.
Actualité internationale.
La présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, a atterri en Algérie pour une tournée africaine qui se poursuit en Mauritanie et au Malawi. Une visite qualifiée d'historique par la diplomatie indienne. New Delhi veut incarner une alternative économique pour les pays africains face à la Chine, avec laquelle elle se dispute le rôle de leader des pays du Sud.
L'invité.
Santé mentale au travail, c'est le thème cette année de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre. À cette occasion, le psychologue Semou Vincent alerte sur les comportements toxiques qui peuvent nuire au bien-être mental dans une entreprise. Il s'entretient à ce sujet avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Semou Vincent, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie.
Selon vous, c'est quoi l'importance de mettre l'accent sur la santé mentale au travail cette année ?
C'est parce qu'on constate que la plupart des personnes qui ont du travail, ils font ce travail-là, mais ils n'ont pas le temps de préserver leur état de santé mentale. Quelqu'un, sur les 24 heures que nous avons, il va travailler jusqu'à 16 heures, même jusqu'à il a 18 heures du travail. Mais on se pose la question, quand est-ce qu'il se repose ? Quand est-ce qu'il fait les loisirs ? Parce qu'il faut bien le dire que, selon Jean-Amos Comenius, nous avons normalement 8 heures de travail. Nous avons 8 heures de loisirs. Nous avons aussi 8 heures de repos. Mais il suffit seulement de faire une enquête à la population, par exemple ici à Goma, ou c'est pas là où nous sommes en train d'être suivis, demander à la population, quel est votre loisir, madame ? Quel est votre loisir, monsieur ? C'est un travailleur, mais il n'a pas un loisir. Ça veut dire, nous sommes en train de nous concentrer dans le cadre du travail seulement, mais nous oublions que pour que ce travail-là soit productif, soit vraiment fructueux, il faudrait que nous puissions aussi préserver notre état de santé mentale en respectant les heures de pause. Vous savez, actuellement, il y a aussi une inadéquation entre les profils d'études, par exemple, et les postes qu'on est en train d'occuper. C'est un problème parce que tous les jours, au lieu du travail, on est stressé. Ça, c'est d'une part. Autre part, c'est, par exemple, avec certains responsables des entreprises qui ne savent pas respecter les agents. Un chef est en train de dire à son subalterne que, mais ça, c'est quel genre de rapport? Mais toi, tu as fait quelles études? Donc, il n'y a même pas le temps d'apprécier positivement ce que les travailleurs ont fait, mais on ne fait que donner des remarques. Donc, dans ces cas, nous voudrions demander aux boss qui sont en train de nous écouter à pareil moment que la bonne santé mentale en milieu du travail a beaucoup d'avantages parce que ça permet à ce que les agents puissent se sentir à l'aise. Parce qu'allez-y comprendre qu'il y a dans certaines organisations où les subalternes se sentent à l'aise lorsque les boss voyagent. Et quand ils reviennent, c'est comme si les personnes sont mouillées. C'est pas bien. C'est vrai, on doit appliquer les règlements d'ordre intérieur, les manuels des procédures administratives et financières. Mais c'est aussi très important de savoir qu'une bonne collaboration entre boss et subalterne est très 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 importante pour booster le travail en avant. Et dans le même sens, c'est très important que nous subalternes, nous agents, que nous puissions aussi savoir que la maîtrise parfaite de ce que nous faisons, c'est un élément qui diminue le stress. Parce que vous constaterez que quelqu'un a effectué son travail pendant longtemps, mais jusqu'à ce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Ça veut dire, de lui-même, il ne se sent pas à l'aise. Et dès lors qu'il n'y a pas une bonne santé mentale au milieu du travail, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de repousser les tâches qu'on allait faire maintenant, on les repousse pour plus tard. Alors, on a parlé de cette thématique, c'est pour sensibiliser la population entière que lorsque nous travaillons, nous ne devons pas mettre de côté notre santé mentale.
Et entre collègues, comment travailler pour améliorer la santé mentale?
Dans les milieux professionnels, nous passons beaucoup de temps. Et dès lors que entre collègues, nous ne collaborons pas, nous ne nous entraidons pas, ça devient un milieu stressant. Parce qu'il faut bien le dire qu'il n'y a personne qui connaît tout et il n'y a personne qui ne connaît pas tout. Ça veut dire, nous nous complétons mutuellement. Et ça va faire à ce que nous puissions souder des bons liens et faire à ce que même notre entreprise puisse aller de l'avant. Et entre-temps, entre nous, nous préservons une bonne santé mentale.
Et est-ce qu'il y a des pratiques individuelles, des comportements positifs qu'on peut promouvoir au sein d'une entreprise pour favoriser la santé mentale de tout le monde?
Si on veut garantir une bonne santé mentale au lieu du travail, c'est très important d'avoir une planification. Parce que vous constaterez que la plupart d'agents, ils vont au lieu de travail, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est au lieu du travail qu'ils commencent maintenant à imaginer ce qu'ils vont faire. Et parfois, ils vont passer autant d'heures, jusqu'à par exemple 13 heures, sans rien faire. Et c'est vers la fin maintenant qu'ils vont constater qu'ils ont des surcharges et ils vont prolonger la journée jusqu'à 20 heures au lieu du travail. Et là, on pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc, c'est très important d'avoir un plan. La deuxième des choses, c'est très important de fournir un effort, de maîtriser son poste. Dès lors qu'on a un poste, ayons le temps de nous renseigner pour que nous puissions être compétitifs parce qu'on est à l'aise lorsqu'on maîtrise son travail. Aussi, respecter les heures de pause, avoir le temps de faire la marche à pied, avoir le temps d'écouter la musique qu'on préfère, d'être en compagnie, ne pas toujours être isolé. C'est entre autres astuces qu'on peut utiliser. Évitons d'aller avec le stress du travail en famille parce que un homme stressé, il va stresser son épouse, il va stresser les enfants et le stress du boulot va même stresser toute la famille. Ça va même impacter même sur les résultats scolaires et les développements en famille.
Monsieur Semou Vincent, je rappelle que vous êtes psychologue. Merci.
Je vous en prie, madame.
Notre invité répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.